Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Aude Vidal, bonjour.
Bonjour.
Alors Aude, vous êtes auteur
oui.
D'un ouvrage qui est sorti récemment qui s'appelle...
Qui s'appelle Égologie, et le sous-titre c'est Écologie, individualisme et course au bonheur.
Et nous sommes aussi avec Fanny, bonjour.
Bonjour.
Alors Fanny, toi tu es l'instigatrice de cette rencontre avec Aude Vidal et le public.
Moi je suis une habitante du Diwa et je fais partie d'un collectif ici. On organise pas mal de choses dont cette rencontre avec Aude Vidal. Voilà.
Alors Aude Vidal, une première question, ce livre traite de quoi ?
Bah, il parle des alternatives écolo. C'est un livre un petit peu critique, mais qu'il faut recevoir aussi, enfin qu'on peut recevoir comme un appel à la vigilance par rapport à des pratiques quand on a envie de changer un petit peu le monde à travers l'écologie, enfin les alternatives écolo quoi.
Par rapport au titre, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous pouvez nous définir le terme égologie ?
Alors, égologie, c'est une invention de mon éditeur. Après, je me suis rendu compte, après coup, qu'elle avait été aussi pas mal utilisée par les gens de LV quand ils se crêpent le chignon, et parce qu'ils sont tous en train d'essayer de conquérir le pouvoir, d'avoir des stratégies personnelles, et donc ils se traitent d'égologistes. Mais sinon, c'était une manière de... un mot valise donc pour parler de la manière dont l'individualisme dans lequel on a macéré tous, on a été élevé dans cette idée-là, elle s'exprime dans les alternatives écolo.
Fanny, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au travail de Aude Vidal ?
Moi je connais ce bouquin. Déjà la maison d'édition, c'est une maison d'édition grenobloise, du coup quasi locale. Et en fait, ce livre-là, enfin, ce qui nous amène à avoir envie en fait d'inviter Aude Vidal pour qu'on échange autour de ces thématiques d'écologie et d'individualisme, c'est qu'en fait ça nous semble un sujet assez important dans le Diwa et où on en parle un petit peu coup par coup, mais où il y a peu d'échanges formels dessus. Là, on est à quelques jours du début de la fête de l'écologie. Et en fait, ça nous semblait assez chouette de pouvoir échanger sur la thématique, sur les thématiques de l'écologie et politique. On a l'impression, en tout cas nous dans notre collectif, qu'il y a... C'est le genre de thématiques qui sont exactement le genre de choses qui serait chouette de parler un peu plus dans le Diwa. Parce qu'ici, on a moult propositions de stages en tout genre de développement personnel. Il y a plein de gens qui sont vraiment dans une attitude quasi de repli vis-à-vis du monde extérieur. C'est quelque chose d'assez confortable. On peut faire notre jardin et vivre une petite vie assez chouette ici, mais nous on est assez critique par au fait qu'on a l'impression que beaucoup de gens s'en contentent et ont l'impression d'être vraiment dans ce truc où s'il y a changement individuel, ça fera tache d'huile et ça ira vers un changement social. Et du coup, on a vraiment envie à travers cette soirée de porter une critique sur cette idéologie qui est un peu une idéologie aussi de notre époque, mais qui est vraiment très prégnante dans le Diwa. Voilà.
Alors, si je comprends bien, votre venue, Aude Vidal, avec votre ouvrage « L'égologie, écologie, individualisme et course au bonheur », ce n'est pas un hasard il y a aussi les rencontres de l'écologie au quotidien tout prochainement.
Oh, c'est un hasard en fait, ça peut-être quelque chose qui avait à voir avec mes disponibilités. En fait, je vais passer toute la semaine en Rhône-Alpes, Je commençais à Saint-Étienne, à Lyon, et puis je vais repasser dans le coin, Grenoble, tout ça. Mais disons que c'est un hasard c'est un hasard que vous avez trouvé plutôt rigolo.
C'est pas vraiment un hasard. En fait, on a quand même, on s'était quand même dit que ça serait chouette que ça soit dans cette semaine-là. Enfin, en fait, on n'en a pas parlé avant, mais nous, c'est clair qu'on visait un peu. Ça aurait pu presque, cette soirée, faire partie du programme de l'écologie au quotidien. Je suis pas sûre que ce soit vraiment dans leur ligne éditoriale de porter ce genre de critique, mais en tout cas, pour nous, c'est vraiment un bon moment pour en parler, quoi.
Alors, nous sommes le dimanche 21, nous sommes au Café Ondarta, et vous allez donner une présentation de votre ouvrage à 19h tout à l'heure. Et vous reviendrez aussi à Saillant, je crois, le jeudi 25 janvier. Voilà, à quel endroit ?
C'est le jeudi 25 à 18h30 au Café Associatif L'Oignon, qui est dans la grande rue de Saillant.
Pour ma part, j'ai essayé de me documenter sur vous par le biais d'Internet. Et, il n'y a pas beaucoup d'informations sur vous, hein, à part les deux ouvrages édités. Et puis, j'ai vu, par rapport à votre ouvrage, justement, deux notes critiques, enfin, deux réponses critiques de ce que vous proposez. Une réaction d'un certain milieu écologiste par rapport à vos écrits. Comment le prenez-vous, ça ? Est-ce que c'est justement une intention ? De faire réagir.
Ah ben pour l'instant j'ai pas beaucoup de j'ai pas vu ça.
En fait nous on vient de le découvrir, il y a eu effectivement une réaction d'un média d'Iwa, en fait d'un média écolo, mais du coup en fait Aude vient d'arriver par le train et
d'accord.
Du coup on n'a pas eu le temps de lui expliquer le contexte local et cet article qui est paru, mais du coup pour nous ça présage d'une chouette soirée riche en échanges. En fait on espère que ces gens qui portent cette critique qui est pas la nôtre puissent venir échanger à la soirée. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un sujet où, pour le coup, dans le coin, il y a plein de gens qui ont un avis différent et du coup, ça peut être très, très chouette.
Alors, il y avait une personne de Cré, je crois bien, et puis une autre du Diwa. Qu'est-ce qui vous a amené à, mis à part la teneur de l'ouvrage, mais qu'est-ce qui vous a fait mettre le pied à l'étrier dans cette démarche, dans ce mouvement ?
Ah ben, moi c'est le monde dont je viens en fait, je me suis pas dit un jour tiens je vais aller me documenter, je vais aller lire les livres de ci et de ça et puis je vais aller rencontrer les gens, leur poser plein de questions et tout, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à militer dans des trucs, première asso c'était une asso vélo il y a 20 ans et puis ensuite je suis tombée dans une association qui s'appelle les Jeunes Écolos Alternatives Solidaires, donc c'est vraiment l'alternative, enfin écologie alternative. Et donc c'est des observations que j'ai faites au fur et à mesure, quoi, que j'ai des choses qui m'ont un petit peu énervée, sur lesquelles aussi j'ai commencé à écrire. Et puis en fait ça m'est arrivé d'écrire des trucs pas du tout charitables, même un peu énervés. Et chaque fois je tombais sur des gens en fait qui me disaient que ça leur semblait vraiment salutaire. Et par exemple, c'est pas forcément des gens qui étaient, je sais pas, des anarchistes ou des socialistes ou des gens qui aiment pas l'écologie ou qui aiment pas cette écologie et qui étaient contents de trouver des gens à critiquer. C'était des gens qui se reconnaissaient dans le bouquin, ou enfin pas dans le bouquin, mais dans les premiers textes, qui disaient qu'ils se sentaient complètement visés, mais qui prenaient ça comme un appel à la vigilance, comme une manière de se rappeler que, en fait, à l'origine, on fait pas ça pour avoir une vie agréable, on fait pas ça pour se distinguer socialement de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter, de manger bio ou des choses comme ça, mais on le fait pour essayer de changer le monde un petit peu, quoi. Et que donc ça permettait de se rappeler un peu la base de l'engagement.
Est-ce que vous, tu voulais rajouter quelque chose, Fanny ?
Ouais, je vais rajouter quelque chose, notamment autour des articles qui ont été publiés, qui sont critiques vis-à-vis de l'ouvrage de Aude. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que soit ils ont mal compris, soit ils ont fait exprès de mal comprendre. Mais en tout cas, que j'ai l'impression que Aude critique, c'est le fait de se dire que en fait le changement personnel suffirait à un changement plus global. Et en fait, nous ici dans le DIY, il y a vraiment plein de gens qui s'organisent pour essayer de produire, vivre autrement. Et en fait, en tout cas nous, c'est pas ça qu'on critique. On pourra en parler, en échanger avec Aude après. Mais en fait, bien sûr, c'est très chouette de s'auto-organiser, de s'autonomiser pour nos moyens de production. Mais en fait, ça suffit pas. un changement. Et en fait, ce qui est dit, c'est qu'il faut avoir des luttes plus globales, plus politiques et collectives. Et qu'en fait, c'est pas parce que on a fait un stage pour trouver son clown intérieur ou une constellation familiale que en fait ça va changer le monde. Mais il y a bien un moment où en fait il faut s'organiser. En fait, on a quand même des exemples. Les luttes, elles se gagnent pas parce que chacun il est allé bien voir son psy, quoi. Les luttes, elles se gagnent bien. Enfin, il y en a une récemment là quand même qu'on a comme exemple à Notre-Dame-des-Landes. S'il y a eu une première manche de gagner, c'est bien parce qu'il y a eu une organisation collective et politisée et parfois frontale et conflictuelle, quoi. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait prendre, par exemple, le cas de Facebook comme un endroit où tous les individus s'expriment en croyant agir dans un sens collectif, ce qui est faux, je pense.
C'est marrant parce qu'en fait c'était mon premier projet de bouquin, c'était avec un auteur qui s'appelle Philippe Godard, qui est un auteur écologiste, anarchiste, et on voulait écrire sur Facebook, c'était en 2008 je crois, et puis on n'a pas trouvé d'éditeur, on l'a proposé à son éditeur habituel et puis elle avait refusé, et donc le truc était tombé. Mais c'était, moi j'étais vachement intéressée par les questions de rapport humain en fait qui se développent sur la plateforme, et lui il était plutôt intéressé par le côté capitaliste en fait, le fait que derrière il y a quand même des intérêts capitalistiques et puis une manière de faire consommer des gens et leur faire consommer en fait leur propre image ou l'image des autres qui se renvoient. Et donc ouais, ça faisait partie de mon parcours, mais du coup j'ai jamais rien écrit dessus.
Fanny, je reviens après vers toi. Est-ce que tu penses que la quinzaine de l'écologie est peut-être le seul événement qu'on puisse avoir dans le Diwa pour que les gens puissent se retrouver ? Et d'où cette carence que tu penses pallier ?
En fait, on ne pense pas pallier à un manquement de... En fait, disons qu'on saute un peu sur l'occasion. Là, c'est un moment où ça brasse autour de l'écologie et que du coup, nous, on a comme envie d'en reparler et de faire quelque chose comme... En tout cas, parler de l'aspect politique que ça a et pas seulement de l'aspect bien-être. Et en fait, on ne veut pas non plus jeter toute la programmation de... Enfin, en fait, on ne fait pas ça contre, mais on a l'impression que c'est le bon moment où apporter une parole supplémentaire autour de l'écologie. Voilà. Et pour cette histoire de Facebook, en fait, je ne suis pas sûre... Enfin, toi, c'est... par exemple, OK, c'est plein de gens individuels qui ont l'impression d'agir, mais alors... Pour le coup, là, on a quand même l'exemple ultra récent du mouvement autour de Balance ton porc en français, là, qui a en fait, qui à un moment a eu une espèce de portée collective, qui a fait bouger des choses. Du coup, je nuancerai un petit peu autour des plateformes. Il y a quand même des endroits dans le monde où ça a été des outils révolutionnaires. Et là, on a un exemple tout près où en fait, ça a permis à des gens individuellement de prendre la parole, et il y a eu un moment où il s'est passé quelque chose de collectif aussi. Voilà. Mais parce qu'en fait, ce que je disais, c'est plutôt une tendance au repli, à se dire qu'en fait, on n'a plus besoin justement de porter une parole, et que la parole, même porter une parole, par exemple dénoncer, on prend l'exemple de Facebook, mais par exemple dénoncer... par exemple dans le hashtag balance ton porc, il y a aussi des gens qui ont dit ah mais on dénonce, c'est encore négatif, c'est encore violent, c'est clivant, c'est mettre les uns contre les autres. Et justement en fait ici il y a beaucoup ce truc là quand on dénonce, en fait on est négatif, on est violent, on est tout ce qu'on veut. Et là dans l'exemple de Facebook, c'est pas ça en fait. Justement il y a aussi des choses qui se politisent via Facebook. Après c'est un truc générationnel, voilà. Enfin moi je suis pas sûre d'avoir envie de balancer tout. J'aime pas le système des réseaux sociaux, mais il y a aussi des choses qui se produisent dessus qui sont pas inintéressantes.
Pas de changement collectif sans lutte collective, et puis que le changement individuel ne suffit pas. Mais est-ce qu'inversement, on peut pas dire aussi qu'il n'y a pas de changement collectif sans aussi un changement personnel, et que ce qui est dit des zadistes de Notre-Dame-des-Landes dans les grands médias, c'est aussi qu'il y a eu des changements sur le plan de la résolution des conflits, par exemple. C'est quelque chose qui est mis en avant aussi, et ce qui implique des changements personnels aussi.
Oui, on en parlait à Saint-Étienne. En fait, les gens m'ont branché sur la lutte contre l'autoroute A45, qui ressemble vachement à une lutte à laquelle j'ai contribué contre l'autoroute A65. Et parce qu'il y a des autoroutes partout, en fait. Enfin, il y a des projets d'autoroutes partout. Et on parlait de la manière dont les gens peuvent évoluer aussi dans les luttes collectives, changer un peu leur regard sur les choses, devenir un peu plus exigeant. Et notamment, ces luttes-là, c'est des luttes dans lesquelles... pas mal de gens sont partis sur des trucs un peu NIMBY, en fait, de pas dans mon jardin, mais vous pouvez faire l'autoroute ailleurs, chez les voisins, je m'en fiche. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les voisins, ils étaient comme eux, ils n'avaient pas forcément plus envie d'avoir une autoroute. Ou ils se sont aperçus aussi, ils ont rencontré des gens, ils ont parlé des besoins de cette autoroute, à quoi ça sert d'aller bosser à 100 km de chez soi, à quoi ça sert de pour l'autoroute A65, c'était plutôt un truc sur les camions, en fait, du commerce avec l'Espagne. Et du coup, t'es branché direct sur des thématiques économiques, en fait, climatiques, tout ça, de ce commerce européen. Et donc c'était pas parce que les gens s'étaient changés individuellement, ils avaient fait leur petit apprentissage et qu'ils allaient beaucoup mieux, qu'ils ont mené ces luttes, c'est que c'est les luttes qu'ils ont changées. Après c'est vrai que on m'a déjà soulevé cette question-là de c'est important d'être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Mais en même temps, la lutte à Notre-Dame-des-Landes, elle a été menée aussi par des gens qui vont très mal avec eux-mêmes et qui vont très mal avec les autres. Et moi, j'ai des copines qui avaient écrit un texte sur les arrachés de Notre-Dame-des-Landes et sur le fait qu'il y avait des problèmes de cohabitation aussi entre des petits bourgeois conscientisés, éduqués, qui étaient écolos, qui avaient des rudiments d'anarchisme, non-violence, féminisme, et qui se confrontaient à des gens qui allaient vraiment pas bien, et puis qui trouvaient à Notre-Dame-des-Landes une manière de s'exprimer, y compris dans tout ce qu'il y a eu de résistance, en fait, violente, ou je sais pas si c'est de la violence, de résistance extrêmement active, on va dire, contre la violence de l'opération en 2012, et que du coup, en fait, il y avait aussi plein de moyens d'expression qui s'étaient plein de gens, enfin, qui avaient utilisé leurs propres moyens d'expression à Notre-Dame-des-Landes, et puis certains, et tout le monde avait été utile, en fait, enfin tout le monde était utile, et donc c'est aussi pour dire que être bien avec soi-même, c'est chouette, hein. L'idée, c'est pas non plus de promouvoir le mal-être et puis la malveillance et tous ces trucs-là, mais c'est d'avertir sur le fait que c'est très facile, en fait, de commencer à s'intéresser à ça, à y porter beaucoup d'intérêt, beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, et puis au bout du compte, à finir par se dire que ben les autres, ils ont qu'à faire ça aussi. Et moi j'avais découvert en lisant un sociologue qui s'appelle Nicolas Marquis et qui a travaillé sur les lecteurs de développement personnel, c'est que à la fin, les gens qui font tout ce travail sur soi, et parfois avec des idées un peu politiques derrière la tête, on est dans une société très individualiste, très très violente, de compétition, et des gens qui ont des trucs un petit peu politiques, à force d'adopter ce prisme, ils en viennent à penser que bah, eux sont des gens, on va dire, qui sont sur le chemin de l'illumination et que les autres le sont pas, et que les autres constituent en soi un problème parce qu'ils ne vont pas bien. Et du coup, au lieu de blâmer, ils finissent par blâmer des gens au lieu de regarder un système, en fait, qui opprime tout le monde.
Ou en plus, ces gens-là, souvent, ils ne viennent pas de n'importe quel milieu sociologique. Il faut aussi en avoir les moyens de se payer ses stages, ce bien-être. C'est que souvent, quand on a les moyens de s'extraire d'un système, c'est qu'aussi, à la base, on a eu les moyens de ne plus être en mode survie, comme sont plein de gens. Et pour moi, la nuance, elle est vraiment sur... ça suffit pas, en fait, d'être bien avec soi-même. Et bien sûr, comme elle dit Aude, l'idée, c'est pas de dire faut que tout le monde se dise le monde est horrible, du coup je vais mal et tout ça, mais c'est qu'en fait ça suffit pas, et les deux, il faut vraiment mettre les deux en jeu, quoi. Faut prendre soin de soi, mais il faut aussi mettre en jeu des choses plus globales, plus politiques, plus collectives. Et en fait, c'est pas être négatif que de participer à une lutte. Critiquer, c'est pas forcément négatif, c'est aussi parce qu'on croit en quelque chose, quoi.
Comme tu l'as dit, Aude, c'est un chemin. Du coup, on peut supposer aussi que ces personnes arrachées, entre guillemets, en faisant le choix d'aller sur cette lutte et dans cette forêt, étaient sur un chemin d'un mieux-être. Et que c'est aussi ça qui les a menés. Enfin, ça peut être chacun son chemin. Et le tout n'est pas dans l'illumination, mais d'être sur le chemin de l'illumination.
Disons que l'expression d'arracher de Notre-Dame-des-Landes qui sont sur un chemin, ça me fait un peu... un peu rire, je sais pas, je pense qu'on est sur des problématiques qui sont pas de mieux-être et tout, mais d'arriver à être tout simplement en fait. Hein,
Ils sont pas non plus obligés de rentrer dans un moule, enfin en plus c'est quoi être bien, enfin, et peut-être qu'ils en ont pas la enfin c'est ce que nous on juge être bien quoi. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça un peu compliqué de dire qu'ils sont sur un chemin, genre comme s'ils étaient sur un chemin vers nous ou vers ce qu'on pense nous politiquement, enfin je trouve ça un petit peu délicat quand même.
Je voudrais ramener un petit peu le sujet aussi au niveau du capitalisme, puisque vous le dénoncez. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter ou nous donner un petit peu la ligne qui rejoint ces termes entre écologie, individualisme et capitalisme ?
Oui, disons que c'est quelque chose dont je ne parle pas trop dans le livre, mais qui est assez important dans la critique des alternatives, qui est le fait que l'écologie, alors que ce soit sur l'écologie très politique, avec l'aménagement un peu par en haut, et puis que ce soit l'écologie pratique, avec nouvelles manières de consommer, qui vont permettre aussi de changer la structure de l'économie, toutes ces approches, elles montrent que c'est plutôt le capitalisme qui change l'écologie que l'écologie qui bouleverse fondamentalement le capitalisme. Et un exemple moi qui me semble assez frappant, c'est celui de ma petite épicerie bio associative locale avec des produits de qualité produits dans des conditions correctes, parce que je suis adhérente à un projet comme ça. Et donc c'est une épicerie dans laquelle ils font attention à s'approvisionner de produits qui sont du bio de qualité, en fait, de qualité sociale, environnementale. Et de plus en plus, en fait, ils voient leurs fournisseurs se faire racheter par des grosses boîtes de l'agroalimentaire. Donc il y a des petits producteurs, transformateurs ou distributeurs qui ont été parmi les pionniers de la bio dans les années 70, 80, 90. Et on avait l'idée qu'en achetant chez eux, et ben finalement, en achetant des produits bio, finalement, on convertirait l'ensemble de l'agriculture, surtout qu'on démantèlerait les gros circuits de production pour des circuits de production à taille plus humaine. Et finalement, ce qui se passe, c'est que la demande augmentant, les boîtes de l'agroalimentaire trouvent un intérêt à racheter ces marques-là. Ils gardent la marque, ils mettent leurs produits de merde qui sont produits dans des conditions dégueulasses. Et puis ils investissent le marché. Et en fait, c'est le marché qui a changé cette niche. C'est pas la niche qui s'est étendue et qui a imposé ses conditions de production. C'est le capitalisme qui l'a changé. Donc il y a vraiment une. Et je pense que c'est le moment aussi. Là, ça fait. Ils me disent que ça fait 2-3 ans que c'est en cours. Et je pense que c'est le moment aussi de voir plein de choses de plein d'impasses, en fait. Des choses sur lesquelles on était plutôt. Il y avait des gens qui étaient un peu douteux, enfin, qui étaient un peu dans le doute, pardon. Des gens qui étaient plutôt enthousiastes. Et puis, on se demandait ce que ça allait faire, en fait, ce changement des modes de consommation et puis cet intérêt plus profond pour l'écologie. Et le résultat, que ça fait ça d'un côté, ça fait Carrefour Bio de l'autre, ça fait. Et c'est pas une victoire là pour le coup et du coup ça marque même la faillite de cette manière de penser quoi que c'était en changeant la consommation qu'on allait changer les méthodes de production.
Allez, pour revenir encore une fois aux rencontres de l'écologie au quotidien, si vous avez choisi cette date. Pour ce changement social attendu et en tout cas porté quand même par ce livre dans cette critique, est-ce que une valeur mise en avant cette année dans ces rencontres, c'est la fraternité, oser la fraternité. Alors il et elle n'ont pas osé, oser la sororité, mais est-ce que ce serait pas une valeur, une des valeurs justement qui irait bien avec ce livre, dans le sens de solidarité ou
Oui, c'est vrai que dans le bouquin, il y a une dimension importante, c'est la dimension de lutte de classe, on va dire. La dimension, le fait que c'est plutôt des gens de la petite bourgeoisie qui se, ou des gens avec des moyens limités, mais des gens qui ont des moyens qui investissent plutôt ça. Et donc, il y a une attention aussi au fait qu'il y a des alternatives écolo qui sont aussi potentiellement excluantes ou qui laissent de côté, voire qui bouffent la place des personnes de milieux populaires ou qui ont des moyens plus faibles, notamment en ville. Enfin, c'est surtout en ville que je pense que c'est logique, elles sont très très fortes. Mais je pense pas que je parle de fraternité ni de sororité non plus, ou d'adelphité en fait. Il y a une féministe qui appelle ça l'adelphité, c'est-à-dire une manière non genrée de parler de cette solidarité. Non, je pense que Fanny, elle a plus de choses à raconter sur ça.
Ouais, moi, je veux bien juste revenir sur un truc que tu dis, Aude, parce que c'est quelque chose qui est assez peu compris souvent. Là, on parle de lutte de classe et de moyens. En fait, ici, il y a beaucoup de gens qui vivent avec peu de moyens. Et qui comprennent pas, mais qui sont assez souvent issus de familles qui en ont plus, et en fait qui ont du mal à capter ce truc de vous pouvez faire ça parce que vous en avez les moyens. Et du coup, je voulais juste rapporter la notion de capital culturel, en fait, qui me paraît importante. En fait, on parle pas que de capital économique, de l'argent que tu as et dont tu disposes, parce qu'en fait beaucoup de gens ici vivent effectivement avec peu d'argent et arrivent à s'organiser autrement avec peu d'argent. Mais si on en a la possibilité, je me mets dedans, c'est aussi parce que pour beaucoup d'entre nous, on a un capital culturel, on a fait des rencontres, on a des petites astuces, ou en tout cas, on a un chemin de vie qui nous permet d'avoir eu d'autres perspectives qui est sûrement pas le même que plein de gens qui ont juste pas fait les mêmes rencontres de par leur milieu sociologique, quoi. En fait, ça me semble important parce que c'est une critique qui, là, va être immédiatement apportée, quoi, si on parle qu'en termes de capital matériel. Voilà.
Anticapitaliste culturel aussi.
Je suis pas contre les capitales culturels, mais je pense que c'est bien de se situer. Et en fait, c'est bien le problème, c'est que souvent, en fait, les gens se rendent pas compte. Quand les gens disent, ont l'impression qu'en fait il faudrait que tout le monde fasse comme eux-mêmes font, se changer soi-même et être bien, en fait, et se dire en fait s'ils vont pas bien, c'est aussi parce qu'ils se prennent pas en main et puis ils sont négatifs, etc. Pour moi, il y a un problème qui est que les gens en fait ils n'ont pas conscience de la manière dont ils sont situés dans cette société et de la manière dont ils peuvent se permettre de tenir ce discours-là qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est cette espèce de conscience qu'en fait, ça ne suffit pas juste de dire « moi, je me change soi-même » et puis les autres, ils n'ont qu'à faire d'eux-mêmes et tout ira bien. Mais il y a vraiment un moment où il faut le porter de manière plus politique, quoi, en fait.
Est-ce que le bien-être, c'est un anesthésiant social ou un anti-inflammatoire social, c'est-à-dire qui soulage mais ne soigne pas?
Moi, je vais laisser Aude, mais oui, je dirais oui.
Oui, moi aussi, je dirais oui. Je dirais oui. En fait, c'est compliqué à critiquer parce que personne n'a envie d'être spécialement malheureux dans la vie. Mais il y a quand même des... la dernière fois, j'avais été invitée par la fameuse épicerie bio et puis on a fini par parler des avantages du mal-être et des avantages de la colère et des avantages de plein de choses négatives qui permettent aussi d'avoir envie de sortir de soi et d'exprimer sa colère et puis de résister et puis de faire des choses qui sont aussi, aussi pas mal dans la vie, quoi.
En fait, il y a quand même ce truc déjà. Déjà, il y a ce truc-là, et en plus, il y a l'espèce d'injonction au bien-être qui peuvent même rendre pas très bien certaines personnes. Et en fait, en termes d'anesthésiant, c'est le même truc que la récupération du bio par l'industrie capitaliste. Il y a aussi que le bien-être, il pouvait être recherché dans des utopies ou des expérimentations sociales. Le bien-être, arriver à bien vivre ensemble, en fait, c'est pas du tout inintéressant. Et c'est même ce qu'on peut rechercher. Mais en fait, l'industrie capitaliste, elle récupère ça comme une nouvelle niche où se faire du pognon, parce qu'il y a vraiment du pognon à se faire avec le bien-être. Il y a des tonnes d'ouvrages, j'ai pas les références là, mais par exemple, il y a un bouquin à l'échappée sur l'industrie du bien-être. Le syndrome du bien-être, en fait, par exemple, qui est un bouquin hyper accessible. Et du coup, en fait, récupère ça et le vide du sens politique qu'il pouvait y avoir à bien vivre ensemble. Et on fait juste un espèce de truc où on peut se faire du pognon à l'infini, parce qu'en fait, on pourra toujours plus se développer sa créativité, son truc, son machin. Et comme en plus, cette même industrie capitaliste crée une injonction à être créatif, libre, etc. En fait, c'est un espèce de truc qui peut s'auto-alimenter comme ça à l'infini, quoi. Ils sont hyper forts. Et ils vident de leur sens politique un peu plein de notions intéressantes, par exemple le bio ou le bien-être, quoi.
Aude, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette maison d'édition, Le Monde à l'envers, qui a édité cet ouvrage ?
Moi, en fait, je pensais dans le train et je me disais, en fait, c'est pas la première fois que Le Monde à l'envers me publie. J'ai déjà eu des dessins publiés dans Le Monde à l'envers, je crois que je te l'avais dit, dans un recueil d'un fanzine qui s'appelait Désurbanisme. Et donc voilà, c'est une maison dont je connais un tout petit peu le catalogue. Je l'avais vu arriver, enfin, moi je m'occupais d'une revue, et puis on faisait pas mal de chroniques de bouquins. Et je sais plus si on signalait beaucoup les bouquins que Le Monde à l'envers faisait, mais on avait eu en tout cas un petit panel de livres. Et le premier, c'était, je l'ai revu hier, c'était Le Daubé est-il vraiment daubé ? C'est celui-là. Et puis, plein d'autres livres. Je sais qu'il y a de la BD dans le catalogue des éditions. Il y a beaucoup de livres avec une perspective anti-autoritaire, anti-industrielle aussi. Et voilà, une des raisons pour lesquelles j'ai sollicité Le Monde à l'envers l'an dernier, et puis on a travaillé ensemble, c'était à la fois leur parti pris politique, et qui me semblait proche des miens, et puis à la fois le format des bouquins, en fait, parce que c'est les spécialistes du bouquin petit format. Et celui-là, il fait une centaine de pages. Je crois qu'il y en a aussi qui sont beaucoup plus courts, qui font une cinquantaine, voire peut-être même un peu moins pour celui qui a été publié en même temps que moi, qui s'appelle, c'est un bouquin de Mathieu Amiek,
La technocratie en marche.
Ouais, qui parle de la French Tech londonienne, comme exemple de ce que devrait être le pays, le Startup Nation dans lequel nous vivons. Donc voilà, c'est des bouquins aussi qui sont fabriqués par les éditeurs, donc ils sont éditeurs, imprimeurs, et avec toutes les difficultés que ça pose parfois. Donc voilà, je sais pas en dire plus.
On rappelle le titre du tien aussi, Égologie, avec un G comme égo, écologie, individualisme et course au bonheur. Bon, un titre que je trouve un peu à l'emporte-pièce, parce que c'est, on a compris, c'est pas toute l'écologie non plus qu'il y a à mettre dans le même panier. Voilà, c'était pour revenir sur le titre. C'est peut-être pas toi qui l'as choisi d'ailleurs, peut-être des fois c'est l'éditeur ou les éditions qui choisissent le titre.
Oui, c'est l'éditeur en fait qui a eu l'idée du titre. Moi j'ai choisi le sous-titre. Puis on l'a choisi ensemble, mais je pense que c'est moi qui ai eu le dernier choix.
Alors, le temps passant, nous devons arrêter cet enregistrement et donc avertir, hormis ce soir, ça sera trop tard pour l'écoute, mais pour le jeudi 25 à Saillant, donc à...
Du coup, à 18h30 à Saillant, au café associatif L'Oignon, qui est grande rue à Saillant, on vous attend nombreux. Aussi nombreux que ce soir, on espère que vous soyez là. Voilà.
Eh bien, Fanny et Aude, merci d'avoir donné un peu de votre temps.
Merci.
Et puis, bonne soirée.
Merci.
Aline aussi.
Interview. 1-terre-view.
Ok, the bird.
L'interview du jour.